Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec un autre jour est possible. Nous sommes le lundi 20 juin 2016 et pour nous, la fête de la musique, c'est pas seulement demain, mais toute cette semaine. Toute cette semaine, en ouverture de l'émission, le musicologue Denis Maurier nous racontera une brève histoire de la musique savante occidentale. Et en deuxième partie, on parlera de hip-hop le mercredi avec la ressortie du film de Spike Lee, Do the Right Thing. Jeudi, on parlera du grand Léo Ferré en compagnie de Pascal Boniface. Demain, on parlera de slam et de poésie avec John Bonzai. Et aujourd'hui, en deuxième partie, on parlera de flamenco. Je recevrai aux alentours de 6h15, Ruben Molina, qui est chorégraphe et danseur espagnol installé à Paris pour son spectacle Nuit Flamenco qui se déroule au Théâtre du Marais. Et je recevrai aussi Sandrine Rabassa qui, elle, est la directrice artistique du festival Arte Flamenco qui a lieu chaque année à Mont-de-Marsan. C'est toujours en début juillet. Mais pour commencer, musique classique.
La musique est l'art qui rend le nombre audible. Comme c'est grâce à l'harmonie intérieure et appropriée de notre être que nous percevons l'harmonie extérieure et appropriée des sons, et comme nous trouvons plaisir à cette perception, nous en concluons que nous sommes constitués à la ressemblance de la musique. Boès.
Une brève histoire de la musique savante occidentale en 5 épisodes cette semaine avec le musicologue Denis Maurier, par ailleurs spécialiste de la musique baroque. Bonjour.
Bonjour.
Premier épisode aujourd'hui, la musique au Moyen-Âge, entre art et science.
En effet, nous avons ouvert cette matinée avec une des compositions musicales les plus fameuses du Moyen-Âge, l'Organum Viderunt Omnes de Maître Perrotin, un des compositeurs de l'école Notre-Dame de Paris, donc qui œuvrait à la fin du XIIe siècle, donc dans notre capitale. Vous avez entendu en même temps 2 citations extraites d'un des traités fondateurs de l'histoire de la musique occidentale, qui est un traité d'un des derniers romains de l'Antiquité, ou un des premiers hommes du Moyen-Âge, Boès, qui dans son traité De Institutione Arithmetica reprend en fait, les grandes théories philosophiques et surtout scientifiques de la musique de l'Antiquité gréco-latine et qui sert dès lors de passeur entre le monde de l'Antiquité et ce Moyen-Âge. C'est par Boès en particulier que nous sommes devenus les héritiers d'une pensée très singulière, une manière très particulière d'envisager la musique. Celle-ci, en effet, envisage que la musique est un art du nombre. Et imaginez qu'à partir d'une corde qui fait un son donné, les proportions de longueur vont déterminer des proportions de son. C'est une manière de penser unique qui fait que, dès lors, nous sommes encore aujourd'hui imprégnés de cette pensée musicale fondée sur une vision mathématique de l'art. Et donc, en effet, nous avons dû envisager, par exemple, que nous devions avoir une octave qui se divisait en sept notes. Alors aujourd'hui, on les appelle do, ré, mi, fa, sol, la, si. Le choix de sept est un choix arbitraire, qui est symbolique, qui renvoie à différentes choses, en particulier la perfection du nombre dans la philosophie aristotélicienne, mais aussi le fait qu'il y avait sept planètes. Et dès lors, Et sept jours, bien entendu. Et dès lors, en effet, on se rend compte que la musique se veut être construite à l'identique de l'univers et de l'homme. De fait, tout le Moyen-Âge considère qu'il y a trois musiques. Il y a la musique qui est la musique des sphères, la musica mundana, la musique des mondes, qui est en effet celle qui régit l'harmonie de l'univers. Et puis, il y a la musique humaine, qui est constituée à l'identique, selon les mêmes principes numériques, et qui est celle que l'homme est capable de faire par sa propre voix. Et enfin, il y a une troisième musique, la musique instrumentale, qui est faite comme son nom l'indique, avec des instruments de musique, et qui doit essayer d'imiter à chaque fois ce que fait la musique de l'homme, qui lui-même imite la musique de l'univers. Nous sommes ici dans une vision qui ne cesse de renvoyer à des microcosmes et à des macrocosmes qui sont étroitement intriqués les uns dans les autres. Alors maintenant, nous allons envisager justement les différents apports du Moyen-Âge. On va commencer peut-être par une pièce grégorienne, une des pièces les plus vénérables et les plus anciennes de notre tradition occidentale, qui est l'introit, la première pièce de l'Office des Morts, le célèbre Requiem Aeternam.
Denis Maurier, comment ce chant grégorien, qui date de l'aube du Moyen-Âge, a-t-il traversé les siècles? Il a été donc écrit, consigné quelque part?
En effet, c'est une des grandes particularités de notre musique savante occidentale, c'est qu'elle est fondée sur le principe de notation, ce qui la différencie d'un grand nombre, de la plupart même, des pratiques musicales sur notre planète. Donc en effet, le Moyen-Âge a vu naître en Occident une notation musicale, d'ailleurs inspirée d'une notation qui existait déjà dans l'Empire byzantin, et que l'on appelle la notation pneumatique. C'est un système de notation assez, à la fois simple, mais incroyablement subtil, qui permet de noter, entre autres, toutes les inflexions de l'interprétation d'une pièce, mais qui note de manière relativement imprécise pour nous aujourd'hui, par exemple, les différences de hauteur. Donc, cette notation s'est développée dans les scriptoria de grands monastères, par exemple celui de Saint-Gall en Suisse ou celui de Laon, au nord de l'actuelle France. Et donc, ces grandes scriptoria, en effet, ont permis de noter ces pièces parce que c'était aussi une nouvelle nécessité. La chrétienté, autour de Charlemagne, en Occident, s'est réunifiée. Et donc, autour de la figure nouvellement importante du pape, il a fallu unifier la liturgie. Pour unifier les choses, il faut les codifier. Dès lors, il est devenu nécessaire de noter des répertoires qui jusqu'alors étaient, on va dire, variables selon les lieux, et il fallait rendre possible l'exécution quasiment à l'identique de la même pièce, par exemple en Saxe, ou encore dans le sud de la France, ou dans les plus profondes provinces reculées d'Italie.
Alors, c'est quoi ce morceau qu'on vient d'entendre, Denis Morier ? Je reconnais le son du luth, de la harpe.
En effet, donc cette chanson est une composition que l'on doit en fait à un monarque célèbre, à savoir Richard Cœur de Lion, le roi d'Angleterre. Ce roi d'Angleterre, fils d'Aliénor d'Aquitaine, a hérité de sa mère un goût particulier pour une musique nouvelle qui en effet nous est parvenue grâce encore à cette invention de la notation qui va toucher à partir du XIe siècle des domaines différents de ceux de la musique, on va dire religieuse, qui était jusqu'alors dévolue à cette notation. Donc en effet, ce sont les musiques que l'on dit en langue vernaculaire, c'est-à-dire dans les langues des différents pays, et c'est en effet les premières œuvres qui nous soient parvenues de musique profane. Cela se produit au tournant du XIe et du XIIe siècle, d'abord au sud de ce qui est actuellement la France, et qui relève de cet art qu'on appelle aujourd'hui l'art des troubadours, dont Aliénor d'Aquitaine était naturellement une des héritières et une des principales inspiratrices. Et Richard Cœur de Lion, quant à lui, va permettre, je dirais, à cet art de glisser vers le nord et même de passer la Manche. Et c'est là où se développe une nouvelle, je dirais, un nouveau goût musical autour d'une nouvelle génération de musiciens que l'on va appeler les trouvères, qui eux vont écrire en effet des compositions dans les langues dites d'Oyle, par opposition aux langues d'Oc du sud de la France. Et cette tradition-là également va par la suite migrer vers l'Est, avec en particulier le développement de l'art des Minnesänger, c'est-à-dire des compositeurs poètes de langue germanique. Donc tout cela se passe entre le XIe et le XIIIe siècle, et en effet, cette fois-ci, le domaine de la musique savante touche non seulement le monde du religieux, mais aussi le monde profane. C'est la dernière étape, si j'ose dire, du développement de la musique savante au Moyen-Âge, qui a vu se développer parallèlement au monodie le principe de polyphonie. Et là, on touche à nouveau au principe fondamental de la musique est à la fois art et science au Moyen-Âge. En effet, la polyphonie est un jeu mathématique complexe qui vise à superposer des voix différentes, créant des proportions harmoniques différentes, mais aussi superposant des conceptions du temps différentes. Car en effet, le Moyen-Âge est habité par une vision du temps qui ne cesse d'évoluer. Le XIIIe siècle a vu naître en particulier le temps mécanique avec l'invention des premières grandes horloges et des systèmes horlogers en Europe. Et dès lors, la musique elle-même s'est emparée de cette vision d'un temps qui n'est plus soumis au rythme naturel, mais qui rentre dans une vision plus artificielle, pourrait-on dire, du temps. Un temps mécanique, régulier, divisible, c'est-à-dire que le temps lui-même devient nombre. Et en effet, toutes ces polyphonies reposent sur une vision incroyablement subtile et complexe où le monde des nombres habite à la fois, on va dire, l'espace des intervalles et le temps.
Merci beaucoup, Denis Morier. Vous êtes avec nous toute cette semaine pour une brève histoire de la musique savante occidentale. Demain, on parlera de la Renaissance entre apogée, crise et renouveau.
Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Musique toujours, mais cette fois-ci avec la danse. Et on va parler flamenco avec mes deux invités. Sandrine Rabassa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice artistique du Festival Arte Flamenco qui se déroule tous les étés à Mont-de-Marsan. Et cette année, c'est du 4 au 9 juillet en exclusivité. Vous allez nous dévoiler le programme. Et puis j'ai aussi un autre invité, Ruben Molina, bonjour.
Bonjour.
Chorégraphe et danseur, vous êtes actuellement à l'affiche du Théâtre du Marais. Et vous parlez très bien français. Vous êtes installé en France depuis 2 ans. Je rappelle que vous êtes danseur et chorégraphe flamenco et que vous êtes originaire de Madrid.
Cordoue.
De Cordoue ?
Oui.
Vous n'avez pas vécu à Madrid ?
J'ai vécu à Madrid, ouais.
Ouais, mais vous êtes originaire de Cordoue. Bah, ça tombe très bien puisque votre nouvelle pièce intitulée Nuit Flamenco nous transpose à Cordoue.
Voilà.
C'est quoi l'histoire ? Qu'est-ce qu'on y voit ?
En fait, avec la création de Nuit Flamenco, j'essaie de partager avec le public à chaque représentation, de ramener tout le monde dans la Nuit Flamenco, la Nuit Blanche de Cordoue.
C'est quoi une nuit blanche à Cordoue ?
Alors, la nuit blanche de Cordoue, c'est pas évident pour moi de décrire tout ça, mais ramener les gens pour sentir les sudors, la guitare flamenca de Cordoue, les mouvements, les petits roues de Cordoue à côté de la mosquée.
Ouais, quand c'est un peu surchauffé.
Voilà.
Quand on se laisse aller.
Voilà.
Comment vous avez imaginé cette pièce ? Vous êtes danseur donc, et chorégraphe, donc est-ce que vous partez d'un souvenir, d'un pas de danse, d'un air de flamenco ? Qu'est-ce qui fait qu'un chorégraphe va nous raconter une histoire, va construire son spectacle ?
En fait, pour moi, le flamenco, c'est, après 15 ans de carrière, c'est, on peut pas dire le résumé, mais c'est une partie de chaque chorégraphe avec lequel j'ai travaillé pendant tout.
Donc, vous avez réuni tous les gens avec qui vous avez travaillé?
Ouais.
Ouais.
Et là, je mélangeais tout ça avec des souvenirs de mon enfance à Cordoue. Mmh. Et ça, finalement, ça a donné, en fait, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de sentiments. On partage avec les gens les sentiments à travers de la danse et aussi de la musique. On a fait une création de musique.
Alors par exemple, vous qui êtes en France, vous êtes installé à Paris depuis quelques années. Quand vous créez un spectacle pour le théâtre du Marais, par exemple, là, en l'occurrence, on peut le voir dans ce théâtre-là, est-ce que vous vous dites, je vais m'adresser à un public qui ne va pas comprendre les chansons, les paroles, et tout doit passer par l'attitude, la danse, l'atmosphère ?
En fait, je pense que le public en France, ils sont à un niveau de connaissances de flamenco très haut, hein, déjà. Donc, on peut pas dire, les gens, ils connaissent pas les paroles, les gens, ils connaissent pas. Oui. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect et on a travaillé. J'ai démarré ces créations à Cordoue. Et après, on a continué à Paris.
Donc, vous êtes toujours en contact avec Cordoue?
Avec Cordoue, ouais.
Ruben Molina, comment êtes-vous arrivé à la danse flamenco?
Je suis arrivé à la danse, en fait, pour moi...
C'est familial ou c'est une passion?
Ouais.
Ou...
Ma mère, elle était danseuse de flamenco, mais dans les années 60, en Espagne, c'était pas comme aujourd'hui. On a beaucoup évolué, mais là, elle a arrêté sa carrière, au moment donné. Et je pense qu'elle m'a transmis l'envie d'être danseur.
Voilà, c'est très souvent le cas, hein, Sandrine Rabassa, que ce soit des histoires familiales, le flamenco.
Oui, le flamenco, c'est un héritage effectivement de famille, de tradition, des racines du flamenco aussi lointaines. Donc oui, c'est vraiment la transmission et ensuite pouvoir après représenter les valeurs du flamenco qui sont effectivement la liberté, la famille et je crois l'expression des sentiments de chaque interprète.
Dans Nuit Flamenco, Ruben Molina y trace la cartographie imaginaire de la danse andalouse dans les rues de Cordoue. Vous-même, pour faire votre programme du Festival de Mont-Marsan, c'est quoi votre cartographie ? Vous allez où ?
Alors oui, je visualise effectivement des points clés du flamenco. Effectivement, Cordoue, Grenade, Séville, Jerez, Lebrija, Utrera. Le flamenco voyage, le berceau, bien sûr, Triana, pour Séville, sont des points, j'allais dire, clés géographiques du flamenco qui, dans mon imaginaire...
Même aujourd'hui, dans un monde mondialisé?
Oui,
éclaté,
bien sûr. Bien sûr, le flamenco, et d'ailleurs, nous avons tout fait pour qu'il soit inscrit au patrimoine immatériel, justement, de l'UNESCO. Et quant à sa diffusion, on va mélanger espagnol, on va décider universel, une diffusion... je pense que le flamenco effectivement est présent partout, des grands festivals, de Shanghai à Saint-Pétersbourg.
Non, mais par exemple, Ruben Molina habite à Paris maintenant.
Habite à Paris, il n'y a plus de frontières. Nous accueillons sur la scène, par exemple, d'Arte Flamenco des artistes étrangers, j'allais dire à l'Espagne, donc polonais, de toutes les nationalités. Effectivement, je pense que le flamenco.
Vous voulez dire
devenu...
même des Polonais de souche qui se sont mis au flamenco?
Bien sûr, par exemple, oui, il y a une danoise aussi, magnifique, qui nous fait le plaisir toujours d'être avec nous. Donc, non, je pense que le flamenco est devenu universel, international et sort justement du cadre des frontières de l'Espagne.
L'année dernière, j'étais à Mont-de-Marsan pour ce festival. Alors cette année, je rappelle que c'est du 4 au 9 juillet. Et moi, je mettrais Mont-de-Marsan dans la carte du flamenco parce que c'est déjà l'Espagne. On est en France, mais c'est déjà l'Espagne. Hein.
Oui, il semblerait, oui, que ce soit un petit bout d'Espagne qui se
pourquoi parce qu'il y a plein de
parce que je pense qu'on vit à l'heure espagnole, il y a beaucoup effectivement beaucoup de personnes originaires d'Espagne immigrées, il y a aussi beaucoup, je pense, depuis 28 ans le festival est vraiment ancré dans la ville et les personnes se sont appropriées l'espace et le temps qui correspond vraiment à une vie flamenca et espagnole à cette période de l'année. On sait que première semaine de juillet à Mont-de-Marsan, on n'est pas forcément à Mont-de-Marsan, on est à Séville.
Ouais.
On est en Andalousie.
Il fait très chaud, hein.
Comme
en Andalousie.
Pas comme à Cordoue, non.
L'été dernier, c'était presque.
Il a fait très chaud, oui. Et puis, on vit le flamenco nuit et jour, comme on pourrait le vivre, effectivement, en Andalousie, au berceau même du flamenco.
Ouais.
Donc, du coup, forcément, je pense que c'est
un espace... Et nos éventails, c'était pas pour faire joli au flamenco.
Non, pas du tout.
Franchement, on les a bien utilisés.
Exactement, tout à fait.
Quel est le programme de cette année, Sandrine Arabassa?
Donc, le programme de cette année, nous avons une ouverture toujours... flamboyante et grandiose avec Sarah Barras qui se font à l'honneur d'ouvrir le festival cette année, des récitals de guitare, Santiago Lara, des rencontres de maestro, Lebrija Norriqueni, des promesses aussi, Patricia Guerrero.
Autant de noms qui vous disent quelque chose, Ruben Molina bien sûr.
Par rapport à un festival,
ouais.
Sarah Barras, c'est...
Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour vous?
Mais pour moi, c'est une icône du flamenco, non?
Ouais.
Et après, j'ai la chance de voir son spectacle il y a un mois au théâtre Tivoli à Barcelone.
Ah oui.
Ouais. Et je peux dire que c'est magnifique, elle a fait une super bonne production.
Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a paru magnifique dans ce spectacle?
Mais je peux dire que tout.
Tout.
On commence par les costumes, mais la
les
musique,
lumières,
la danse, oui.
Le dessin des lumières, vraiment tout est très très bien conçu. Et
ouais, tout à fait.
Pour
ouais.
valoriser
ouais.
cette grande danseuse et sa compagnie.
Bon, et vous sillonnez le monde, l'Espagne surtout, et le monde pour faire votre programme du Festival de Mont-de-Marsan.
Oui, et aussi pour dénicher des artistes pas forcément programmés dans les salles. Donc j'essaye vraiment d'aller chercher aussi le futur du flamenco, de manière à proposer au public d'Arte Flamenco des personnes qu'on ne connaît pas forcément, des nouveautés. Cette année, notamment, nous participons activement à la sortie du premier album d'un chanteur qui, pour la première fois, va chanter Alante, alors qu'il accompagnait la danse jusqu'à présent, qui est Christian Guerrero, on a signé avec Universal la semaine dernière. On est vraiment impliqués justement dans le fait que le flamenco puisse être diffusé à un plus grand nombre, mais aussi également aider des jeunes artistes à se promouvoir. Ça fait partie de notre philosophie.
Sandrine Rabassa, est-ce qu'il y a plusieurs flamenco?
Non, il y a le flamenco et ensuite il y a des artistes qui le font vivre.
Il n'y a pas plusieurs écoles?
Si, il y a plusieurs écoles, mais le flamenco, pour moi, reste immuable, reste un art qui est ancré dans les racines et qui véhicule des valeurs fondamentales. Tant qu'il y a du compas et tant qu'il y a justement du cœur et de la liberté à l'ouvrage, ça restera toujours du flamenco, que ce soit de l'avant-gardisme ou du traditionnel. Je pense que le flamenco ne peut pas se décliner. Et de toute façon, quand on parle justement de modernité ou de plusieurs écoles du flamenco, c'est presque une évidence, puisque le flamenco s'est toujours nourri de l'évolution justement de différentes cultures et de différentes interprétations en fonction des siècles et des artistes qui ont pu le faire vivre. Donc ça semble une logique aujourd'hui que le flamenco puisse se présenter de différentes formes et qu'il n'ait jamais une forme définitive.
Et l'enfant de Cordoue, c'est quoi sa définition du flamenco, Robin Molina?
Mais pour moi, le flamenco, c'est une façon de sentir, de vivre, non, finalement. Et je pense que dernièrement, depuis 10 ans, ça a beaucoup, beaucoup évolué, le flamenco.
Vers quoi?
Vers le sens, déjà, de la création de flamenco.
Mais ça a évolué vers quelque chose de plus contemporain.
Ouais, voilà, absolument. On a des références comme des danseurs comme Belém Maya ou Israël Galván ou des nouveaux compagnies qui commencent aussi, des nouvelles compagnies.
Qui proposent des choses différentes.
Ouais.
Cependant, hier, j'avais une conversation très intéressante avec Joaquín Grillo, qui sera sur scène, justement, face à Antonio Canales, qui dit, et qui fait aussi, entre guillemets, notre marque de fabrique du festival, c'est aussi pour nous, l'avenir du flamenco, nous le concevons aussi en faisant revenir aux sources du flamenco. C'est-à-dire, effectivement, nous avons aujourd'hui des propositions artistiques très élaborées qui peuvent tendre vers l'art contemporain. Mais le flamenco, dans son essence, est avant tout une rencontre spontanée de mélange de sentiments très forts. Et par exemple, nous avons un spectacle où j'ai précisément demandé qu'il n'y ait pas beaucoup de répétitions pour que le flamenco puisse apparaître sur scène dans sa pure liberté et arrive ce qu'arrive. Parce que le flamenco, à l'origine, c'était un art qui servait aux fêtes de famille, au baptême, au mariage, à l'expression, par exemple, des travailleurs, des peuples nomades, d'expression de leur âme, comme pouvaient le faire, par exemple, les artistes blacks avec le blues. Oui, donc, du coup, le flamenco, à l'origine, c'est quand même l'expression des sentiments dans l'immédiateté, dans la spontanéité. Donc, l'avenir aussi, c'est peut-être justement de revenir à ces formes, j'allais dire, fondamentales.
Sauf qu'on n'est pas dans la même époque. Mais
justement, de pouvoir proposer aussi un retour, j'allais dire, à ce naturel, avec des rencontres un petit peu spéciales et vraiment où justement que le douane arrive sans forcément qu'il soit travaillé, cherché, élaboré, chorégraphié.
Et on termine justement avec du flamenco, la musique de Christian Guerrero. Merci Sandrine Rabassa. On sera à Mont-de-Marsan du 4 au 9 juillet pour cette nouvelle édition du festival Arte Flamenco. Merci aussi Ruben Molina. On va se dépêcher pour aller voir, parce que ça joue aujourd'hui encore, demain au Théâtre du Marais, Nuit Flamenco. Après, vous avez une tournée, j'espère.
Et le 21 juin, c'est la dernière de la saison à Paris.
C'est demain, le 21 juin. Et c'est la fête de la musique, mais nous, c'est toute cette semaine la fête de la musique sur France Culture. Et après?
Et après, on reprend à partir d'octobre, à Paris, la tournée.
Voilà. Bon, comment on dit un autre jour est possible en espagnol?
Otro día es posible.
Otro día es posible? C'est une émission réalisée par Thomas Duterre, préparée par Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet, que vous pouvez retrouver sur franceculture.fr. Merci à Bernard Lagnel qui nous a accompagnés à la technique ce matin. Passez une bonne matinée, à demain.